Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, bienvenue sur Syllab. Une petite annonce avant de commencer. Syllab se joint cette année à l'association La Cloche, qui agit contre l'exclusion des personnes en situation de grande précarité et ou sans domicile fixe à travers le lien social. Les bénévoles et salariés de La Cloche organisent régulièrement des maraudes et aussi des événements pour créer du lien social, des moments pendant lesquels ils et elles distribuent notamment des boissons chaudes. Si vous souhaitez donc contribuer à ces actions, rien de plus simple, nous collectons pour La Cloche café, thé, tisane, soupe en sachets déshydratés ou en briques à réchauffer, sucre en morceaux ou en dosettes, gobelets en carton. Tout ça, vous pouvez y apporter directement dans nos locaux à Syllab, du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30. Nous sommes situés au deuxième étage du bâtiment EREV ou Maison des étudiants, pour ceux et celles qui connaissent, sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2. Merci par avance pour votre générosité. Tout de suite, le flash d'Eva.
Il avait été interrompu l'année dernière par la guerre dans la bande de Gaza, mais aujourd'hui le procès de Benjamin Netanyahou reprend. Et sa reprise est définie par l'audience du Premier ministre israélien. Face aux accusations et témoignages de corruption, fraude et abus de confiance, il est entendu aujourd'hui devant le tribunal de Tel Aviv. « Je parlerai, je ne fuis pas », a assuré hier soir le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Après des décennies d'horreur, la Syrie respire enfin et a ce week-end vécu un moment historique.
Bachar al-Assad a été renversé par le groupe islamiste radical Ayat Tahrir al-Sham, HTC, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre. Hier, on a appris que les rebelles ont nommé un nouveau chef du gouvernement transitoire, son nom Mohamed al-Bashir. Anciennement directeur du gouvernement du Salut national syrien, il assurera ses nouvelles fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Il n'aura fallu 15 jours pour mettre fin aux 50 ans de règne de la famille Assad.
Comment se fait-il que ça se soit passé si vite ?
Les rebelles syriens ont 50 000 hommes dans leur rang. L'armée syrienne compte, elle, plus de 200 000 soldats. Et cela sans même prendre en compte le soutien du Hezbollah et de la Russie. Mais le pays est confronté depuis longtemps à une situation économique plus que fragile, ce qui complique les actions de l'État, mais aussi la rémunération des soldats, de moins en moins motivés. Et la Russie, elle, se concentre sur le conflit avec l'Ukraine. Aussi, l'attaque était préparée depuis des mois et les rebelles ont agi rapidement, profitant de l'instabilité politique au Proche-Orient. Ils ont également bénéficié du soutien de la Turquie, qui a déployé environ 10 000 à 15 000 soldats dans la région d'Idlib. Depuis longtemps, les gouvernements successifs d'Erdogan sont alliés aux insurgés syriens.
Est-ce que tout cela signifie enfin la fin des conflits en Syrie ?
Pour le moment, on ne peut pas parler d'une situation de paix. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, depuis la chute du président, Israël a mené près de 300 raids aériens en Syrie. Ce matin, Geir Pedersen, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, demandait l'arrêt des frappes israéliennes dans le pays. Et cet après-midi, Israël Katz, le ministre de la Défense israélienne, a confirmé des frappes nocturnes sur la flotte syrienne. Les États-Unis, craignant un retour en puissance de Daesh, ont frappé plus de 75 sites tenus par l'organisation terroriste en Syrie. Car HTC, le groupe qui a renversé Bachar al-Assad, est le successeur du Front Fatah al-Sham, qui est lui-même issu de Daesh. Pour ne rien arranger, le chef d'HTC, Abu Mohamed al-Julani, a sa tête mise à prix aux États-Unis. Washington offre 10 millions d'euros pour tout renseignement qui permettrait son arrestation. Les pays européens restent donc méfiants, même s'ils se réjouissent de cette libération du pays, qui met un terme aux terribles exactions de celui qu'on surnommait le boucher de Damas. Son régime était parmi les plus criminels au monde, gazant à plusieurs reprises la population et ouvrant ce qu'on a appelé un abattoir humain, à savoir la prison de Saïdania. Entre 2011 et 2015, plusieurs dizaines d'exécutions par pendaison y ont été menées chaque semaine. Depuis la chute du président, les rebelles se sont employés à libérer les prisonniers et prisonnières des prisons de tout le pays, dont celle-ci. Des milliers de familles s'y sont rendues dans l'espoir de retrouver leurs proches. Les casques blancs ou l'organisation humanitaire syrienne ont ce matin annoncé qu'ils mettaient fin à leurs recherches.
Et pendant ce temps, en Europe, qu'est-ce qui se passe ?
Mis à part la méfiance que nous avons évoquée, certains pays européens conservateurs, comme l'Allemagne ou la France, ont annoncé lundi suspendre l'examen des demandes d'asile en provenance d'Asie, de Syrie. L'Autriche, pardon, a même annoncé préparer un programme de rapatriement et d'expulsion des Syriens ayant déjà obtenu l'asile.
Et en France, dimanche, Jordan Bardella a qualifié de catastrophe la chute du président syrien. Un non-lieu après 5 mois de procédure. En effet, les deux rugbymen français, Hugo Oradou et Oscar Jégou, accusés pour viol aggravé en juillet dernier, ne sont plus poursuivis par la justice argentine. Selon France Info, l'abandon des poursuites fait suite à l'incohérence des témoignages et des contradictions notoires dans le discours de la plaignante. Toutefois, de nombreuses interrogations restent présentes compte tenu du rapport médico-légal de la victime indiquant une quinzaine de lésions recensées sur son corps datant de la nuit du 6 au 7 juillet dernier. La défense de la plaignante a fait savoir qu'elle fera appel à de la décision du parquet argentin. Il ne fait pas aussi bon que cet été. Pourtant, la place vacante de Matignon nous rappelle juin dernier. Mais plus pour longtemps, selon l'allocution d'Emmanuel Macron de jeudi dernier. Aujourd'hui, le président français a invité à l'Élysée la plupart des chefs des forces politiques du pays. Selon l'entourage du président à France Info, le but de cette réunion est de définir les contours d'une coalition ou au moins d'un accord de non-censure afin de constituer un gouvernement d'intérêt général. N'ont donc pas été invités ceux qui censurent, c'est-à-dire le RN et LFI. Ça faisait 2 semaines qu'elle ne montrait aucun signe de vie, mais aujourd'hui la jeune bretonne de Pabu, disparue, Morgane, 13 ans, a été retrouvée vivante à Coutances, en Normandie. Selon le parquet, elle était hébergée là-bas chez un individu de 21 ans, résidant à Rennes. Ce dernier a été interpellé et mis en garde à vue pour enlèvement, séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Une autre disparition a fait parler dans la métropole rennaise ce week-end. Après plusieurs témoignages racontant un même événement inquiétant, la police a lancé un appel à témoins en fin de semaine dernière. L'événement date de vendredi dernier où un jeune garçon métis d'environ 7-8 ans, appelant sa mère, a été vu tiré par le bras par un homme grand, caucasien, à barbe blanche portant une casquette d'environ 40-50 ans. Mais l'enquête de la police a finalement résulté aujourd'hui en une dispute entre frères. En effet, selon Ouest France, le jeune garçon a été identifié et il s'agirait que l'homme en question soit le grand frère de l'enfant. Rennes a accueilli une nouvelle fois les transmusicales. Chacun a ses astuces pour préparer sa venue. Cléo Arzul est parti à la rencontre de nos festivaliers.
Salut les transmusicales !
Un des plus anciens festivals de musique débarque à Rennes pour une 46e édition. C'est le retour des transmusicales. Nos festivaliers, étudiants, mères de famille ou retraités, tous sont pressés de faire de nouvelles découvertes.
Ce que j'aime beaucoup, c'est les découvertes. C'est un des rares endroits où on peut vraiment trouver ça sur beaucoup de jours avec plein de trucs différents.
J'aime bien savoir que je sais pas ce que je vais voir.
Ma mère, elle me disait, ouais, ça m'a fait découvrir, je sais pas qui, Étienne Dao à l'époque. Déjà hyper connu, maintenant je me suis dit, ouais, il y aura des petites pépites.
Mais j'étais quasiment certaine de trouver des groupes qui me plairaient, quoi.
Et pour préparer la meilleure venue possible, chacun a sa petite technique.
Ça prend du temps de préparer une venue, de profiter correctement des concerts.
Moi, je suis un peu monomaniaque, donc je regarde toutes les playlists, je regarde ce que ça donne en live, j'écoute les albums, enfin, je me prépare vraiment.
Moi, je fais un peu tout à l'arrache.
Faire des pauses, boire de l'eau entre deux bières.
Là, je suis vraiment venue sans savoir du tout ce que j'allais voir.
Je repère au moins deux groupes que j'ai envie d'aller voir dans la soirée.
Ayant étudié la programmation ou non, tous repartent avec de nouveaux sons dans leur playlist.
Merci Cléo, et on retrouvera ce festival mythique l'année prochaine. Vous avez déjà vu un jardin punk ?
Non, j'ai jamais vu.
Un jardin qui n'est pas très bien taillé.
Et c'est non, ça. C'est pas ça.
Il a des trucs à clous.
Il a une crête.
J'en ai aucune idée, j'aimerais beaucoup savoir.
Il a des docks.
Mais c'est le terme que les organisateurs du concours national des jardins potagers ont qualifié le potager de Sylvain Ingent. Le Breton de Concoret a gagné le prix spécial du jury potager du 21e siècle. Son concours se tient chaque année fin novembre afin de récompenser les jardins potagers remarquables en termes de diversité des cultures, des bonnes pratiques de jardinage et de l'esthétique du jardin. Selon Ouest France, le jury a beaucoup apprécié que, je cite, « les pratiques de Sylvain Injean sont toutes respectueuses de l'environnement, avec tout de même un brin contestataire proche du jardin punk en rupture avec le potager traditionnel ».
C'était tout.
Voilà.
Merci.
Ça y est, la voix d'hiver. je vais réussir. Ça y est, la foire d'hiver est de retour. Elle s'est installée ce week-end sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et Julie est allée à la rencontre de ses visiteurs et visiteuses.
Musique à fond, lumière et projecteurs, la foire d'hiver vient de nouveau réchauffer les Rennais comme chaque année depuis 52 ans. Ce lieu qui réunit rire et cri est devenu une tradition chez les jeunes.
Je viens chaque année depuis maintenant 3 ans.
En fait, moi j'habite à Rennes, donc je viens déjà tous les ans.
Pour la fête foraine, j'y viens chaque année.
Je viens une fois par an, parce que j'aime pas les attractions, donc je viens vraiment pour me promener. Ça permet de sortir, de voir un peu de monde.
Les jeunes Rennais se promènent entre amis, dépensent leur argent dans des machines à pinces et tentent de gagner le gros lot. Mais le lot favori et l'attraction qui fait le plus sensation reste.
Les chichis, les beignets.
Moi je suis clairement venu pour les churros ici.
Avec des chichis et le morgène, c'est carré franchement.
Plus des chichis je pense. Des chichis peut-être à chaque fois.
Ouais, généralement je prends des chichis.
Pour ces gourmands, la plupart étudiants, la magie de Noël leur fait oublier leur budget serré de fin d'année.
On est à 20 euros, 25. Donc oui, on va dire qu'on va mettre 40.
Afin de dépenser sans compter le temps d'une après-midi, quitte à évacuer vos cornets de chichis du haut du flasher, la fête foraine reste ouverte jusqu'au 5 janvier.
Ça donne envie d'y aller. Merci Eva pour ce flash. Je ne sais pas s'il y a une foire d'hiver dans le pays de Château-Giron, mais peut-être que notre invité va nous le dire.
6h,
minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Un pull col roulé gris, les cheveux relevés en chignon. Aujourd'hui, nous accueillons Delphine Madoré. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de communication pour l'office de tourisme de Château-Giron, c'est bien ça ?
Alors, du pays de Château-Giron.
Ah oui, pardon. Et donc, cet office de tourisme organise depuis plusieurs années rendez-vous en terre connue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est rendez-vous en terre connue ?
Oui, bien sûr. Alors, vous connaissez tous l'émission Rendez-vous en terre inconnue sur France Télévisions. Nous, on a voulu faire le parallèle avec Rendez-vous en terre connue pour montrer en fait qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des aventures et pour découvrir et expérimenter. Et du coup, on a décidé d'organiser donc Rendez-vous en terre connue sur le pays de Château-Giron. Donc, c'est notre 5e édition. Et l'objectif, en fait, c'est qu'un binôme parte à la découverte du pays de Château-Giron, de ses 5 communes, pour découvrir ce qu'il y a à y faire.
Donc là, la 5e saison a déjà été tournée. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Tout à fait. Alors, c'était ce week-end, là, donc c'est tout frais, c'était samedi et dimanche. On avait un binôme donc de 2 sœurs, Angélique et Pauline Ivanez, donc qui ont participé à cette expérience un peu hors du commun. Ça s'est très bien passé. Alors, on a eu quand même la météo qui a été un petit peu capricieuse, qui a bouleversé un petit peu nos plans, mais on a su s'adapter malgré quelques annulations. Mais bon, ça, voilà, c'est un peu... on ne peut pas tout contrôler.
Les aléas de l'aventure finalement.
Exactement.
Et est-ce que vous avez potentiellement, enfin, ou est-ce qu'elles ont eu des problèmes par rapport, par exemple, j'ai vu que tout se faisait en stop.
Ouais, alors du coup là tout ne s'est pas fait en stop parce que bon, on est quand même sympa, on voulait pas les laisser sous la tempête pendant tout le week-end, donc elles ont quand même fait quelques trajets en stop quand il y avait quelques accalmies. Ça s'est très bien passé en fait. En 3-4 minutes max, elles ont trouvé une voiture. Donc comme quoi, c'est facile de faire du stop chez nous. Et donc toutes les deux, elles m'ont dit que ça faisait des années et des années qu'elles n'avaient pas fait de stop et que ça leur avait ramené un peu à leur jeunesse et de faire ça sur le territoire parce qu'elles habitent en fait, elles, à Château-Giron. Et ben voilà, c'était assez inédit pour elles, quoi.
Et donc vous avez parlé, je crois, des activités, donc que vous proposiez des activités un peu insolites dans ce périple. Qu'est-ce qui a été fait cette saison ?
Alors en fait, pour construire ce programme, on le fait avec les adhérents de l'Office de tourisme. Et donc cette année, on a eu pas mal de choses. On a été faire en avant-première un atelier potager au Château des Pères, au domaine du Château des Pères à Pierré-Chancé. Alors eux, ils ont déjà des ateliers d'artistes depuis quelques années, et à partir de 2025, ils vont proposer des ateliers potagers. Donc nous, c'était une avant-première, on a eu la chance de vivre ça. On a fait aussi une visite de la distillerie Février à Donloup, qui produit du chou chêne et du gin. On a visité la chapelle Saint-Alexis à Noyal-sur-Vilaine, qui cache des mosaïques au dorico. On a été voir l'atelier de Claudine Brusorio, qui est une sculptrice à Château-Giron. Donc voilà, on essaye vraiment de varier en fait les activités, les expériences, et surtout de parcourir les 5 communes, puisqu'on a 5 communes sur le territoire. Alors malheureusement, on n'a pas pu aller cette année sur une de nos communes, à Servan-sur-Vilaine, parce que on y avait prévu en fait du géocaching dans l'espace naturel de Padavy à Servan-sur-Vilaine, et malheureusement, à cause de la tempête et voilà, des vents violents, on nous a clairement déconseillé d'y aller.
On peut peut-être juste rappeler ce que c'est le géocaching pour nos auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas.
Oui, bien sûr. Alors le géocaching, c'est un peu comme une chasse au trésor moderne en fait. Alors nous, sur le département, on a une application qui s'appelle Trésor de Haute-Bretagne, donc qui est gérée par le département, et on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de caches et de parcours. Et l'idée, c'est de donc télécharger cette application Trésor de Haute-Bretagne et résoudre des petites énigmes en fait qui nous amènent à un trésor. Et ça permet en fait de visiter des villes ou voilà, des campagnes un peu de façon ludique. Donc nous, sur notre territoire, on a plusieurs caches. On en a 2 à Château-Giron, une justement au Château des Pères, une à Donloup et une à Servan-sur-Vilaine qu'on devait faire, mais que voilà, malheureusement, on n'a pas pu faire, peut-être pour une prochaine année.
Et comment est-ce que vous choisissez les activités ? Parce que j'imagine que ça change à chaque fois.
Oui, c'est ça. Alors, comme ça fait 5 années là, qu'on fait rendez-vous interconnu, on essaye d'aller voir tous nos adhérents. Alors, on a quand même des classiques, comme le Château des Pères, voilà, qui est un peu un immanquable à faire sur le pays de Château-Giron. Mais l'avantage avec eux, c'est qu'ils proposent tellement de choses différentes qu'on arrive toujours à trouver des nouveautés. Comme je disais tout à l'heure, on a fait une année un atelier artistique là-bas. L'année dernière, on avait testé le spa à l'hôtel Essentiel.
Sympa.
Voilà. donc on essaye de trouver à chaque fois des nouveautés en fait, et c'est surtout pour mettre en valeur aussi nos adhérents de l'Office de tourisme. Donc voilà, on travaille en amont avec eux pour aller les voir quoi, et les faire connaître.
Et il y a aussi des défis, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors en fait, pour que le binôme se rende d'un lieu à un autre, on leur fait des petites énigmes. En fait, elles ne connaissent pas du tout le programme en avance. Donc vraiment, le programme est dévoilé au fur et à mesure. Donc elles ont des petits défis, des petites énigmes, justement pour retrouver les lieux dont elles doivent se rendre, où elles doivent se rendre.
Et concernant les participantes du coup cette année, comment est-ce que vous choisissez ? Est-ce qu'il y a une sorte de concours ou je ne sais pas ?
Alors, en fait, ça dépend des années. Donc, la première année de Rendez-vous Interconnu, donc c'était en 2020, c'est ma collègue et moi-même qui sommes parties parce que l'idée, c'était d'aller à la rencontre aussi de nos adhérents, de nous connaître parfaitement le territoire. L'année d'après, on a fait un casting ouvert au grand public. Donc là, c'était des Castelgironnais, un couple qui avait remporté voilà, ce casting. L'année dernière, on avait refait un casting ouvert. Et là, c'était deux amis en fait, qui venaient, l'une du Finistère et l'autre du Morbihan. Donc comme quoi, notre appel a été entendu jusqu'à l'autre bout de la Bretagne. Et du coup, cette année, on a voulu changer. On a voulu mettre encore une fois en, fait, en avant nos adhérents. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à nos partenaires, on a proposé à plusieurs, et donc du coup ce sont les sœurs Ivanès du cabinet immobilier Ivanès qui ont été le plus enthousiastes par rapport à ce projet, et c'est pour ça qu'elles ont été sélectionnées.
Et est-ce que vous les préparez d'une façon particulière? Est-ce que c'est une sorte de course ou...
Non, alors on leur dit juste qu'il faut qu'elles soient à l'aise. Bah, pour faire du stop, c'est pas évident pour tout le monde, forcément. C'est comme ça aussi qu'on choisit les binômes, évidemment. Et puis après, l'idée, c'est que, voilà, comme elles savent pas le programme, on leur dit de prendre plusieurs types de vêtements, du maillot de bain au cas où. Donc il n'y a pas de préparation spécifique, mais voilà, faut juste qu'elles soient motivées pour découvrir.
Et quel retour avez-vous eu sur ce rendez-vous en terre inconnue?
Alors, du coup, ça a eu lieu le week-end dernier, donc samedi et dimanche. On a fait en fait en direct des stories sur Facebook, Instagram. Et là, cette semaine, moi, je vais m'atteler à faire un montage vidéo pour ces deux jours. Donc, j'espère que la première vidéo sortira vendredi. Sortira donc sur nos réseaux sociaux et sur YouTube également. Et donc, l'idée, en fait, c'est pouvoir diffuser ces vidéos pour faire connaître nos territoires au plus grand monde. Donc, comme c'est la 5e édition, en fait, on est quand même pas mal suivis. Les personnes du territoire et même hors territoire commencent un petit peu à connaître le principe. Et donc, on voit bien sur les réseaux sociaux que, voilà, on nous demande quand est-ce que ça va se passer. Et surtout, on voit que c'est suivi et que les gens y répondent, quoi.
Et est-ce qu'il y a une équipe de tournage, entre guillemets, ou est-ce que ce sont les participantes qui se filment?
Alors, c'est moi. C'est moi qui les suis tout le week-end. Donc voilà, j'étais avec elles, alors pas H24 parce que je n'ai pas dormi avec elles, mais elles ont dormi par contre sur le territoire, on leur avait loué un gîte. Mais sinon, voilà, j'étais là le samedi et le dimanche toute la journée avec elles.
Est-ce que vous avez dû vous former pour ces techniques de montage ou de tournage?
Alors, j'ai eu quelques formations dans le cadre de mon métier, hein, à l'office de tourisme. Mais sinon, voilà, on fait pas mal de débrouilles en interne, quoi.
Et vous nous avez dit que les vidéos allaient très prochainement sortir. Combien est-ce qu'il y en aura en tout?
Alors, il y aura deux vidéos, du coup, une par jour. Les vidéos feront à peu près une petite dizaine de minutes. Voilà, et vous pourrez donc les retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet, donc Tupi Château Giron Tourisme.
Et aussi, cette saison était surtout axée sur Noël, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Oui, c'est ça. Alors, c'est la première fois, en fait, qu'on organise rendez-vous interconnus à cette période-là. D'habitude, c'est plutôt l'été. Et donc là, on a voulu le faire en décembre pour montrer aussi qu'on peut faire des choses sur le pays de Château-Giron en hiver, en automne. Voilà, qu'il n'y a pas que l'été. Et donc, cette année, en effet, on a été au marché de Noël à Château-Giron, qui est un très beau marché dans le château. Château-Giron, c'est une petite cité de caractère, donc c'est vrai qu'on a un beau patrimoine, on a des maisons à pans de bois et qui sont vraiment mises en valeur aussi par les décos et les illuminations de Noël, quoi. C'est vraiment un beau marché de Noël.
Et est-ce que vous avez des idées pour la prochaine saison, des nouveautés à venir?
On a toujours des idées. On a toujours des idées. En fait, on a un petit territoire, donc on a 5 communes, mais assez dynamique. Et voilà, on sait qu'on aura toujours des adhérents qui seront partants pour présenter leur activité et puis pour nous recevoir.
Et donc, c'est ouvert à toutes et à tous. J'imagine, même nous, on pourrait partir.
Ça t'a donné envie à gagner.
Alors, si l'année prochaine, on fait un casting ouvert, ouais, ce sera ouvert à toutes et à tous.
Trop bien, merci beaucoup.
Un petit conseil pour nos auditeurs et auditrices, du coup, suite à cette expérience, vous leur conseillez quoi comme expérience dans le pays de Château-Giron?
Alors, c'est pas évident parce qu'il y a plein de chouettes choses à faire. Je les invite déjà, vos auditeurs, à aller voir les vidéos, comme ça ils pourront se faire leur propre avis sur les différentes activités. Et puis après, moi je pense que le must, c'est toujours le Château des Pères, parce que vous avez... plein d'ateliers différents, vous avez le parc de sculpture aussi à voir, l'hôtel, deux restaurants, donc vous pouvez y passer la journée en fait et faire plein de choses différentes sur ce domaine-là.
Eh bien merci beaucoup, donc la vidéo c'est à partir de vendredi, c'est ça?
La première j'espère sortira vendredi.
Ok, sur le YouTube, Château-Giron.
Ouais, YouTube, Facebook, Instagram et notre site internet aussi.
Eh bien merci.
Merci à vous.
6 heures avant minuit, 6 heures.
avant minuit.
Tic-tac, tic-tac. J'espère que vous êtes à l'heure aujourd'hui pour Laisse Béton, la chronique mensuelle de Cyriane. Aujourd'hui, Cyriane, tu nous en dis plus sur le mystérieux bureau des temps de la métropole rennaise. What the fuck?
Oui, en effet, bon déjà, je suis désolée, alors je vais en décevoir certains et certaines, mais non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la salle du temps de Dragon Ball Z. Oh. Cet endroit... Ah oui, désolée, je sais que t'es fan, Héloïse. Cet endroit iconique de l'anime japonais dans lequel une année correspond à un jour sur Terre, permettant donc aux protagonistes de la série de s'y entraîner durant une année, alors qu'en réalité, une simple journée s'écoule. Mais non, nous du coup, on a le bureau des temps. C'est au moins autant intéressant, je vous l'assure. Le principe, c'est une petite équipe spécialisée dans l'étude des temporalités urbaines. Autrement dit, ce sont des gens qui abordent l'espace urbain en termes de temps et non plus de distance. Ils sont réfléchis les temps que nos vies accordent à la ville, les inégalités qui en ressortent selon notre genre, notre âge ou encore notre classe sociale. Pour être plus clair, je vais vous donner comme exemple un des tout premiers travaux de ce bureau créé en 2002 à l'initiative du maire de l'époque. Cette étude, elle, concernait les femmes faisant l'entretien dans la mairie. Comme vous le savez sûrement, c'est le type de métier dans lequel on a besoin de se réveiller bien bientôt, hein, ou à l'inverse, de commencer bien tard puisqu'on travaille en horaire décalé. Bref, du coup, cette étude, elle en a conclu qu'en plus d'être relou de se réveiller à 4 heures pour passer le balai et vider la poubelle de son supérieur, je l'ai fait, donc j'en témoigne, et ça a des conséquences directes sur la santé, mais aussi sur la vie perso. Bah oui, quand on accumule le rôle de mère, pour certaines, avec toute la fatigue physique et mentale d'un tel emploi, disons que la vie familiale est un peu perturbé. La solution trouvée donc, faire travailler.
C'est de tousser.
Je déconne. C'est de tousser, exactement. C'est d'être malade. La solution trouvée donc, c'est de faire travailler les agents et agentes d'entretien aux mêmes heures de bureau que les autres employés. Au revoir donc les longs intervalles de plusieurs heures d'inactivité forcée entre deux interventions. Et ce qui permet aussi d'avoir accès à une offre de transport correcte pour se rendre à la mairie. La plupart n'habitant pas dans le centre, elles avaient donc à prendre les transports en commun ou la voiture. Mais donc si on fait ça pour tout le monde, ça veut dire que les réseaux de transport vont être saturés. Ne vous inquiétez pas, le bureau des temps est là pour répondre à cette question aussi, voyons. En effet, puisqu'une de ses missions est de négocier avec les employeurs pour que les horaires de leurs travailleurs soient assez séparés, mais pas trop pour éviter les bouchons. En témoigne, par exemple, les horaires décalés de l'université Rennes 2. Bon, là, c'est les étudiants et les étudiantes, mais vous avez compris le principe. Avec qui le bureau des temps a travaillé pour diminuer la saturation des heures dites d'ultra-pointe. Bref, un concept tente de répondre à toutes ces problématiques. C'est la ville du quart d'heure. Vous connaissez ?
Non.
Eh bah super. C'est une idée...
Mais tu vas nous expliquer.
Bah oui, je vais vous expliquer quand même. C'est suspense, ça l'attend. C'est une... Et donc c'est une idée popularisée par l'urbaniste franco-colombien Carlos Moreno. Le concept, il est simple, avoir accès à tous les services nécessaires du quotidien en moins de...
10 minutes, 15 minutes.
15 minutes, ah. Bravo, le quart d'heure anglais. À pied ou à vélo, c'est important. École, travail, loisirs, commerce, espace vert, service public, bref, tout ça est bien évidemment concerné. L'objectif pour Carlos Moreno est multiple. Avant tout, il est écologique, avec la diminution radicale de la voiture, dont on doit sortir de sa dépendance, une dépendance limitant notre liberté d'après l'urbaniste. Et comme toute dépendance, elle affecte activement notre santé, puisque polluante environnementalement parlant, mais aussi phoniquement. Un des autres objectifs est celui de la décentralisation. Ne plus avoir de centre-ville sur lequel on a constamment nos yeux rivés et par lequel on doit forcément passer pour accéder aux loisirs ou aux services est primordial pour que tout le monde soit épanoui en ville, selon l'urbaniste. Parce qu'évidemment, derrière cet aspect environnemental et social de la ville du quart d'heure, il y a celui plus philosophique. À quoi voulons-nous dévouer notre temps imparti sur cette planète aux ressources finies ? Au travail prenant déjà une place centrale dans nos vies, à la consommation dont ces temples que sont les zones commerciales arborent les pourtours de nos villes, ou alors à cultiver des liens avec des inconnus comme des proches. Bref, pour répondre à tout ça, je vous laisse non pas un quart d'heure, mais un mois pour la prochaine de Laisse Béton. Salut. Wow. Et oui, ça fait réfléchir. Hashtag wow. Deep, hashtag Rodin.
Merci Cyriane, c'était très très instructif. Le répondeur de 6h avant minuit clignote, appuyons dessus.
Le téléphone.
Allô ? Allô ?
Ouais, là, on est bon.
Syllab, la radio sauvage.
Salut la radio sauvage. Je vous laisse un message parce que comme chaque jour vous menacez et harcelez un peu plus vos auditeurs et que vous collez des stickers dans tout Rennes pour qu'on vous appelle, je me suis dit qu'il était temps. Bref, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter comment par pur hasard, car évidemment personne ne m'en a parlé, j'ai commencé à écouter Syllab. Bon, je vous avoue qu'avant de vous écouter, j'avais quelques a priori sur vous. Syllab, c'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler. Ah bon ? On a une radio dans Rennes 2, Kézako. Mais il y a vraiment des gens qui écoutent ça ? Et puis, j'ai fini par écouter. Et là, ce fut la révélation. C'était un jour de novembre, à 18h. J'étais seule. À travers les fenêtres du bâtiment B, je regardais l'horizon. Il faisait déjà nuit. C'est à ce moment précis que j'écoutais le direct de l'émission. J'étais comme hypnotisée par vos douces voix radiophoniques et vos actualités locales palpitantes. Et depuis ce jour, chaque fois que sonne 6h avant minuit, je vous écoute avec passion et fais grésiller la fréquence 88.4 FM. Bon, vous l'aurez compris, je suis une grande fan. Parce qu'avec votre émission, on est au plus près de l'actualité locale. On apprend plein de choses intéressantes comme la vraie signification de Skibidi Toilette par exemple. Waouh ! Le plastique, les watibules, les barbares, les gourdins, tout ça. Que de joie et d'aventure avec le club. Tout ça pour vous dire que je suis fan de vous. Et pas du tout de quelqu'un en particulier. j'appelle pour demander quelque chose au quelqu'un en particulier, Cyriane. Est-ce que tu veux sortir avec moi, SCP ? Salut !
Aucune obligation de répondre en direct, mais si tu le faisais, ça nous ferait vraiment, vraiment
T'as
plaisir.
Une
Oui. Le premier couple de 6 heures avant minuit. Merci pour ce magnifique message. N'hésitez pas à faire de même et à nous laisser un message, vous aussi, peu importe ce que vous ayez à dire. Vous voyez, les déclarations d'amour, on en a déjà eu pas mal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci de nous avoir écoutés. Merci Timothée pour la technique. À demain.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.